Session de théologie, la création, le péché, par le père François, à Rimont, le 20 février 1993, troisième cours.
Préalable, le prieur du lieu m'a fait remarquer que nous avons commencé peut-être un peu vite ce matin. J'ai pas pris la peine de vous accueillir. C'était peut-être parce que j'arrivais moi aussi d'ailleurs. Alors, pardon, hein, d'avoir commencé comme ça, mais entrer dans le vif du sujet. Oui. Dont acte, quoi. Quand il étudie la foi, le théologien est amené à préciser qu'il y a aussi des points dont on a la révélation et donc qui sont proposés à notre foi, mais qui en même temps, pour certains, peuvent être connus par l'intelligence, indépendamment de la révélation. C'est ce qu'on appelle les préambula fidei, hein. Ce qui est avant la foi. Ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même, je dis bien qu'elle peut découvrir, même si elle ne le fait pas toujours, et qui est normalement présupposé à la foi. Alors, en raison de notre faiblesse, en raison aussi souvent de notre paresse, qui fait que dans notre recherche de la vérité, ben nous n'allons pas jusqu'au bout des exigences de l'intelligence, Dieu, dans sa miséricorde, nous révèle ses préambula fidei. Et pourtant, il ne nous dispense pas, même si nous avons la foi. Il ne nous dispense pas de faire cet effort pour que notre intelligence aille jusqu'au bout de ses exigences. La foi n'est pas rivale de l'intelligence. Le premier concile du Vatican à réaffirmer, c'est deux fois, cette possibilité pour l'intelligence humaine d'atteindre à l'existence de Dieu. Alors, par rapport à la création, le thème de cette session, c'est important de voir ce que l'intelligence humaine peut dire. Et aussi, ce qu'elle peut dire, mais comment le problème se pose? S'il se pose, hein, comment se pose-t-il? Parce que ce ne sera pas de la même façon. Donc, c'est clair qu'il va se poser. Mais il ne se pose pas de la même façon pour le philosophe et pour le théologien. Pour l'intelligence qui cherche par elle-même et pour l'intelligence qui est au service de la foi. C'est important pour nous-mêmes. C'est important aussi dans notre dialogue avec ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est important aussi parce qu'il y a eu des confusions qui ont été faites, qui ont pu mélanger les ordres et qui font que la foi va apparaître rivale de l'intelligence. Notre intelligence, face à la réalité qu'elle expérimente, fait justement de multiples expériences. J'ai l'expérience du monde physique dans lequel je suis. le monde qui m'entoure, dont je dépends d'une certaine façon. J'ai l'expérience de réalité vivante, des animaux, peut-être de l'animal que je possède. Je vois ses réactions, pas la même chose qu'une pierre, un animal. L'expérience de mon ami, l'expérience de moi-même. Au cœur de ces expériences, alors je remonte très haut, hein, il faut bien, on va prendre de l'élan, voilà, parce que comment on doit aller plutôt. Je remonte à l'origine, hein, parce qu'on doit monter très haut. Alors, voilà, il faut prendre de l'élan. Au cœur de ces expériences, si ces expériences sont vraiment humaines, si c'est vraiment mon intelligence, hein, qui est présente à mes sensations, par lesquelles j'entre en contact, hein, avec la réalité qui m'environne et même avec moi-même. Il y a le jugement d'existence. Je suis. Cette réalité est. Ceci est. Mon intelligence, au-delà, mais à travers, hein, mes sensations, à travers la couleur, hein, qui imprime ma vision, à travers le son, est capable de saisir ce qui est l'être. Quand je dis je suis, il y a je et il y a suis. Il y a je, hein, tout ce que je porte en moi-même. Il y a mon corps, il y a ma pensée, ma mémoire, les sensations. Et puis, je dis « je suis ». Je distingue. C'est encore plus net quand je dis « ceci est ». Et toute réalité est. Je suis et mon ami est. Mon ami, ce n'est pas moi. Et pourtant, l'un et l'autre, nous sommes. Mon intelligence capable de saisir ce qui est, qui vient la mesurer. Cette expérience fondamentale du jugement d'existence est au point de départ d'une des branches de la philosophie. Il y a une des branches de la philosophie qui va chercher à connaître ce qui est en tant qu'il est. Le jugement d'existence, il est présent à toutes mes, oui, à toutes mes expériences véritables. Je peux faire une expérience par rapport au travail. Il y a une expérience du travail. Transformation d'une matière, hein, à laquelle je donne une forme pour réaliser une œuvre. Je peux réfléchir sur cette expérience-là. À toute une partie de la philosophie, qui va être ce qu'on appelle la philosophie du travail, philosophie de l'art. Et puis, il y a cette partie de la philosophie qui veut découvrir ce qui est en tant qu'il est. L'être en tant qu'être. Hein. Alors, je dis ce qui est, parce que quand on dit l'être, vous voyez, c'est abstrait. Hein. Alors, et l'abstraction a du bon, mais en même temps, il faut faire être vigilant. Hein, parce que l'abstraction, elle est ce mode selon lequel mon intelligence connaît. Elle est le mode. Et ce que mon intelligence connaît, c'est une réalité existante. Ce qui détermine, c'est la réalité qui existe. Dans cette expérience, plutôt dans cette partie de la philosophie, à partir de l'expérience fondamentale de ce qui est, saisi comme étant. Mon intelligence va interroger. C'est-à-dire, je ne peux pas rester au niveau de la description. Il y a une partie très intéressante qui est de décrire. Hein. Ceci est où je suis et je peux décrire beaucoup de choses. Et ce n'est pas inutile. Hein. Mais en même temps, mon intelligence interroge parce qu'elle saisit quelque chose. Et en même temps, il y a autre chose qui lui échappe. Quand je dis « ceci est », quand je dis « je suis », bien sûr que j'affirme quelque chose qui est vrai. Bien sûr que je saisis quelque chose. Et en même temps, je peux me demander « mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est qu'être ?» Je le saisis bien un petit peu, puisque je dis ceci est. Mais j'ai besoin de cette analyse, oui, à partir de l'interrogation. L'interrogation philosophique, oui, qu'est-ce que c'est? En vue de quoi? D'où? En quoi? Interrogation philosophique qui cherche à découvrir les principes et les causes propres de la réalité. Le mot cause, hein, j'ai employé le mot cause, la causalité. On va beaucoup parler de la causalité. Avec la création, c'est inévitable. Alors, quand on dit cause aujourd'hui, souvent, on fait référence, vous voyez, une relation d'antécédent et de conséquent. La cause est vue dans le devenir, dans le mouvement. Ce qui est cause, c'est ce qui rend compte de la succession dans le devenir, dans le mouvement, de deux événements. C'est ça la cause, quelque chose d'extérieur. Et toujours lié quasiment au devenir. Il y a le premier, il y a le deuxième. Et le deuxième existe parce que le premier a été là. Mais le deuxième a survenu parce que le premier était là. On va dire là, il y a une cause. Hein. La cause d'un accident, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, la cause, hein? Il y avait une plaque de verglas. Hein, voilà, c'était premier. Puis la voiture est passée dessus. Puis elle allait un peu vite. Alors, quand le philosophe cherche la cause, cause propre. Hein. C'est oui. Ce qui rend compte de l'intérieur. Qu'est-ce que cette réalité? En vue de quoi cette réalité? Définir la causalité. Peut-être pas. Cause propre. Alors, au niveau de cette partie de la philosophie qui étudie ce qui est en tant qu'il est, ce qu'on a appelé parfois la métaphysique, même souvent, ou la philosophie première, peut-être que la dénomination la plus juste, c'était la philosophie première. En regardant la réalité qui existe, qui existe, celle que j'expérimente et qui est la plus parfaite, c'est l'homme. C'est l'homme, la réalité la plus parfaite que j'expérimente, et c'est pour cela que la philosophie première va avant tout interroger l'expérience de l'homme qui existe. Je crois qu'on peut le dire, disons qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Nous n'avons pas une expérience immédiate de Dieu. Nous n'avons pas une expérience immédiate de Dieu. Si quelqu'un l'a, je me situe alors là, en dehors de la foi. Attention, notre intelligence, par elle-même. Est-ce qu'on a une expérience immédiate de Dieu? Toutes les réalités que nous expérimentons sont limitées. Et la plus parfaite, c'est nous-mêmes. Alors, en s'attachant à connaître l'homme qui existe en tant qu'il est, en interrogeant le philosophe est amené à découvrir deux principes propres de ce qui est, en tant qu'il est. Je suis désolé, ça va très vite. Je dis qu'on prenait de l'élan, donc on va aussi aller vite là-dessus. Ce n'est pas le but, mais il faut revenir à ça. Donc on n'est pas là pour faire la philosophie première, il faudrait très longtemps. Mais en même temps, il faut le dire, pour pouvoir situer, je crois que c'est important. Dans la ligne de l'interrogation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'être? Une interrogation, vous voyez, qui naît aussi. Qui naît, oui. Parce que dans mon expérience, je saisis une unité et dans une diversité. Très important, ça. Quand il y a une diversité dans l'unité, il y a un principe. Parce qu'il y a un ordre. Et qui dit ordre, dit le premier. Et quand j'interroge ce qui est, dans la ligne de qu'est-ce que c'est, ce qui est, je découvre cette diversité. Selon différents aspects. Je vois une diversité dans ce qui est. Et en même temps, il y a une unité. Du point de vue de qu'est-ce que c'est que ce qui est, que l'être. Et je suis amené, l'intelligence est amenée à poser ce principe propre selon la forme de ce qui est, qu'on appelle la substance. En grec, lousia. Source, de toutes les déterminations de ce qui est en tant qu'il est, et en même temps qui va être capable de les recevoir. Alors le rôle de sujet. Bon. Dans cette lumière, le philosophe étudiera ce que c'est que la qualité, la quantité, la relation. Tous les accidents, tout ce qui vient, tout ce qui existe dans la substance et par elle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'être en tant qu'il est? C'est la première interrogation que pose l'intelligence face à ce qui est. Et la deuxième, les autres, il n'y a pas de réponse. La deuxième, c'est en vue de quoi, ce qui est. N'oubliez pas, quand je dis ce qui est, vous pouvez penser, moi-même qui suis, en tant que je suis, en vue de quoi suis-je? En vue de quoi? Du point de vue de l'être, ce qui est. Parce qu'on peut avoir un regard au niveau, vous voyez, alors là, c'est tout l'aspect de l'éthique, de l'amour, mon expérience de l'amour, d'amitié. Je peux dire, ça va finaliser ma vie. C'est vrai, il y a toute une partie de la philosophie qui regarde comment À travers l'expérience de l'amour d'amitié, l'homme peut être finalisé, découvrir son bien, s'orienter vers ce bien, être responsable. En vue de quoi suis-je en tant que je suis? C'est la découverte, c'est plutôt cette interrogation, quand on lit la réalité. Vous voyez, l'interrogation, c'est comme un moment de recul. Il y a l'expérience, il y a l'interrogation. Et à la lumière de cette interrogation, je vais à nouveau regarder la réalité. Et en elle, découvrir. Le principe selon la fin de ce qui est l'être en acte. Tout ce qui est en tant qu'il est, est finalisé. C'est à partir de mon expérience et cette découverte de la cause qu'on appelle une induction. Voilà, une induction. Elle est extrêmement difficile. Elle implique de lire. Oui. Mon expérience est d'ailleurs pas simplement une expérience. Interroger l'expérience que je fais d'ailleurs de mon exister, selon les différents modes d'exister. Vous voyez, j'existe comme pensant. J'existe comme aimant. J'existe comme vivant. Et en interrogeant cette expérience à la lumière de l'interrogation, oui, avec cette interrogation en vue de quoi, découverte du principe propre selon la fin, l'être en acte. Tout ce qui est en tant qu'il est finalisé. L'être en acte se distingue de l'être en puissance, l'acte et la puissance. Et dès lors, je peux affirmer ce principe. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Voyez, principe, je saisis une cause selon la fin de ce qui est. Il y a un ordre. Être en puissance, être en acte. Alors on peut faire tout. Oui, on va pas faire l'induction. Mais tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. C'est en s'appuyant sur ce principe de causalité finale, que le philosophe peut revenir à la réalité qu'il expérimente, à lui-même, à l'homme. Et qu'il peut voir toutes les réalités que j'expérimente. Quand je dis qu'elles existent, qu'elles sont. Quand je dis qu'elles existent, je touche un acte d'être qui implique toujours acte et puissance, selon différentes modalités. Dans toutes les réalités que j'expérimente, il y a à la fois acte et puissance. Vous voyez, si je regarde, par exemple, l'aspect, oui, mon expérience de l'amour en tant qu'il existe. J'aime. Il y a un acte d'aimer. Je suis attiré par un bien. L'amour, hein, c'est attraction. Ou plutôt, pas simplement l'attraction, c'est le bien qui attire. Hein, mais amour, l'amour, c'est être attiré par ce bien. Et qui me finalise. Mais en même temps, je peux aussi le refuser, ce bien. En même temps, je demeure en puissance. Jamais, hein, cet amour ne prend tout en moi. Il y a une limite. Cette capacité d'aimer qui est en moi n'est pas pleinement actuée. Donc, il est important de distinguer ces moments en revenant à la réalité, en découvrant que dans mon jugement d'existence, je touche un acte d'être. Hein, réalité impliquant toujours acte et puissance. Car c'est le premier temps. À la lumière du principe de causalité finale, selon lequel tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Eh bien, dans un troisième temps, je peux dire, il est nécessaire qu'existe un être premier qui sera souverain bien, qui sera l'intelligence première, qui sera un être nécessaire, acte pur, le vivant qui est vie, qui est celui qui est au-delà du devenir, devenir qui implique toujours la puissance. Donc, ces trois moments, hein. Jugement d'existence sur une réalité qui implique acte et puissance, le principe de causalité finale découvert, hein, grâce à l'analyse de ce qui est en tant qu'il est, et donc l'affirmation, troisième moment, il est nécessaire qu'existe un être premier. Vous voyez, je n'ai pas une connaissance immédiate, hein. L'intelligence ne peut pas avoir une connaissance immédiate, mais médiate. C'est très pauvre, hein, comme façon de l'atteindre. Il est nécessaire qu'existe. Je ne le saisis pas directement, hein, mais je saisis la nécessité qu'il existe. Et c'est celui-là que les traditions religieuses appellent Dieu. Ce tout autre, hein. Cet être premier, c'est celui que les traditions religieuses appellent Dieu. Et là aussi, c'est important de distinguer, hein, on ne découvre pas l'existence de Dieu. Dieu est un nom qui vient des traditions religieuses. Mais si, sans a priori, c'est vrai que le philosophe, il doit débusquer tous les a priori qu'il a en lui-même. Nous avons tous des a priori. Et si sans a priori, l'intelligence, partant de son expérience, interroge, eh bien, elle est amenée ultimement à cette conclusion. Il est nécessaire qu'existe un être premier. Alors, selon le principe de causalité finale, à nouveau, hein, en vue de quoi ? En vue de quoi ? Parce que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Pour rendre compte, hein, vous voyez, il y a en moi acte et puissance. Eh bien, pour rendre compte de cela, il faut poser, selon la cause finale, selon la fin, ce qui attire, hein, il faut poser cet acte pur, cet être premier acte pur. Ensuite, dans un regard contemplatif, hein, qui implique un amour aussi, et qui implique que l'intelligence va avoir une pénétration nouvelle, je vais découvrir les manières d'exister de cet être. Quelles sont ces manières d'exister ? Je ne peux pas connaître ce qu'il est. Hein. Et vous voyez, il est le tout autre, il a été saisi. Je ne le saisis pas immédiatement. Je ne peux pas saisir ce qu'il est. Mais en même temps, puisqu'il est véritablement, hein, saisi, plutôt puisque j'ai en vérité affirmé qu'il est nécessaire qu'il existe, je vais pouvoir préciser sa manière d'être en gommant tout ce qui est limité, tout ce qui est second. Dans ce dont j'ai l'expérience. C'est là qu'on va préciser, hein, la simplicité de l'être premier. Il est simple. Sans aucune composition. Il n'est pas divisible. Il est séparé de la matière. La matière qui implique toujours la divisibilité. Il subsiste en lui-même. Il est acte pur. La simplicité absolue de l'être premier. C'est un peu rude d'en faire comme une énumération parce que, oui, ça doit, c'est vrai. C'est un regard contemplatif, hein, on peut dire contemplatif, au sens où il y a la, vous voyez, la saisie de la manière d'exister d'un être qui est tout autre que moi, qui me mesure et qui est saisi comme étant la fin. Simplicité, ça veut dire que son être est son bien, hein, sa bonté. Sa bonté est son être. Il n'y a aucune composition en lui. Il est parfait aussi. Simplicité et perfection. Simplicité et perfection qui souvent s'opposent, hein, dans notre expérience. Hein. Parce que là, pour réaliser une œuvre parfaite, hein, il faut vraiment rassembler tout. Hein. Donc, souvent, la perfection va impliquer la complexité. Hein. Regardez. Et en même temps, il y a toujours une nostalgie de la simplicité. Hein. Mais alors spécialement dans toutes les réalisations, hein, au niveau du travail, hein, si on veut une perfection, au niveau de l'efficacité, dès que c'est lié à la matière. Hein. Alors, ce qui est simple, hein, voilà, c'est simple, donc il lui manque beaucoup de choses. En Dieu, perfection et simplicité vont de pair. Il est parfait dans sa simplicité. Rien ne lui manque, hein, la perfection, rien ne lui manque de tout ce qui est dû à sa nature. Toutes ses qualités, hein, sont subsistantes. C'est la perfection d'un être personnel, hein, dont nous parlons là. Un être personnel. Nous avons dit, hein, souverain bien, intelligence première. Il est bon. Il est simple. Il est parfait. Et il est bon. Celui qui attire. Qui attire en finalisant. et qui est sa propre fin, la bonté. Et la perfection, c'est proche, mais c'est pas la même chose. Perfection et bonté. Il est sa propre fin. Il est infini. Il est immense. Hein. Rien ne lui est extérieur. Ça aussi, hein, c'est très, très, très impressionnant. Rien ne lui est extérieur. C'est une purification, hein. Vous voyez, de tous les schémas que nous pouvons avoir sur Dieu. Et cet effort que l'intelligence peut faire, ben, dans la mesure du possible, il faut le faire. Il est stable, éternel, un et unique. Je vais vite, l'homme, c'est vrai. Il est aussi le vivant. Le vivant. De cette vie, selon, hein, cette vie selon l'intelligence et selon la volonté. Bien sûr, hein, son être est son intelligence. Son être est sa volonté. Il est simple. Mais pour moi-même, parce que je n'ai de connaissance de lui que à travers, hein, à travers l'expérience que je fais moi-même, des réalités qui m'entourent et de moi-même. Eh bien, je dois préciser, il a une vie selon l'intelligence. Comme dit le philosophe Aristote, contemplation de la contemplation. Il est à lui-même l'objet de son intelligence. Il est le vrai. Il est amour de l'amour, on peut le dire aussi. Je me permets juste de vous lire, c'est un passage tellement beau, justement dans le livre qu'on a appelé, hein, la métaphysique. Aristote parle ainsi de l'être du premier des êtres, hein, l'acte pur. Il a dit qu'elle était pensée de la pensée. Il dit, car la pensée, celle qui est par soi, et la pensée de ce qui est le meilleur par soi. Et la pensée souveraine est celle du bien souverain. L'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible, car elle devient elle-même intelligible en entrant en contact avec l'intelligible et en le pensant, de sorte qu'il y a identité entre l'intelligence et l'intelligible. Car le réceptacle de l'intelligible est de l'ousia, substance, c'est l'intelligence. Et celle-ci est en acte en les possédant. De sorte que ceci, l'acte, plus que cela, la puissance, semble le divin que l'intelligence possède. Et la contemplation est ce qui procure le plus de plaisir et ce qui est le plus noble. Si donc cet état de joie que nous ne possédons qu'à certains moments, Dieu l'a toujours, cela est admirable. Et s'il l'a plus grand, cela est plus admirable encore. Or, c'est ainsi qu'il l'a. La vie aussi appartient à Dieu, car l'acte de l'intelligence est vie, et lui-même est cet acte. L'acte par soi de lui-même est la vie la meilleure et éternelle. Aussi disons-nous de Dieu qu'il est un vivant éternel, parfait, de sorte que vie et durée continue et éternelle appartiennent à Dieu, car Dieu est cela même. C'est peut-être un peu difficile à entendre. Hein. Regardez. Hein. C'est en tout cas très beau de voir comment philosophe, dans le livre des métaphysiques, c'est le livre Lambda, comment le philosophe, bien sûr il était dans une tradition, dans un climat de tradition religieuse. Notre monde est peut-être différent dans la mesure où l'existence de l'être premier de Dieu est niée, hein, ce qui est un phénomène assez récent, hein, nouveau. Et ce qui est si beau, c'est de voir comment ce philosophe, par l'effort de son intelligence, hein, arrive ainsi à préciser ses manières d'exister de l'être premier. Il est, hein, le contemplatif. Il se contemple lui-même, ce qu'il vient de dire. Et il se contemple lui qui est le souverain bien. Viens alors, mais alors seulement. Cette question, cette nouvelle interrogation. Quel est le rapport de cet être premier avec les autres réalités existantes? Quel est le lien de dépendance des autres réalités à son égard? Là, c'est vrai que c'est très important de voir. Premièrement, nous avons, et le philosophe dit, il est nécessaire qu'existe un être premier. Et cet être premier, il est saisi comment? Comme l'acte pur, hein, qui finalise tout. Il n'est pas saisi comme source de l'être, de ce qui existe. Il n'est pas saisi comme source de l'être, de toutes les autres réalités. Il est saisi, selon le principe de causalité finale, comme l'acte pur. Et puis deuxièmement, donc, on précise tout de suite ce regard, dans un regard contemplatif, ces manières d'exister. Troisièmement, vient la question de préciser sa causalité par rapport aux réalités que nous expérimentons et par rapport à nous-mêmes. Vous voyez, l'expérience des réalités, la lumière du principe de causalité finale, nous avait posé l'existence de cet être. Alors, après, on se demande, mais quel est le lien entre cet être dont il est nécessaire qu'il existe et nous-mêmes et toutes les autres réalités? Ça, c'est la question de la création. Mais il faut bien distinguer. Le philosophe ne découvre pas le créateur. Il découvre l'être premier. Et ensuite, il se demande quel est le lien de dépendance des autres réalités à l'égard de cet être premier. On ne peut pas parler simplement d'une juxtaposition. On ne pourrait pas dire il y a l'être premier, hein, acte pur, et les autres réalités. Ça, c'est pas possible parce qu'on a vu qu'il y avait cette dépendance. Mais jusqu'où va-t-elle cette dépendance? Cette dépendance que nous avons saisie selon la cause finale, hein, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Donc, dans mon expérience, hein, l'expérience que j'ai, je peux saisir à la lumière du principe de causalité finale la dépendance à l'égard de l'être premier. Eh bien, cette dépendance, est-ce qu'elle implique aussi? Est-ce qu'elle touche mon acte d'être Est-ce que cet être premier, il est source de mon exister? Ça, c'est le problème de la création. C'est les deux ordres, causalité finale et causalité efficiente. La causalité finale et la causalité efficiente. Ce serait peut-être intéressant que dans les carrefours, il soit question des causes. Pardon. Causalité finale et causalité efficiente. C'est sûr que si on ne distingue pas suffisamment deux causalités, on ne verra pas comment se pose le problème et on risque de graves confusions. Alors, pour le moment, nous allons en rester là. Je vous redis donc, pour ceux qui le désirent, d'ici un quart d'heure, il y aura donc deux carrefours, un dans cette salle et l'autre dans la salle qui est au rez-de-chaussée. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et puis, si jamais il y en a certaines, pas simplement auxquelles les frères n'auront pas pu répondre, parce que je suis sûr qu'ils pourront, mais qui seraient intéressantes de voir tous ensemble. Comme ça, on pourra peut-être en parler ce soir. Bien.
Session de théologie, la création, le péché, par le père François Arimont, le 20 février 1993, quatrième cours.
Je réponds peut-être tout de suite à la question qui m'est posée. Lorsque vous avez défini l'être premier, c'est-à-dire Dieu, vous avez dit que rien ne lui est extérieur. Or, concernant la phrase du premier texte de la création, Dieu vit que tout cela était bon, vous avez dit que pour voir, Dieu prenait une distance avec ce qui venait d'être créé, ce qui implique deux notions différentes. Dieu est quelque chose qui lui est extérieur. Sa création, n'est-ce point paradoxal? Juste, on dit lorsque vous avez défini l'être premier. C'est quand nous avons essayé de préciser ses manières d'exister. Ce n'est pas donner une définition. C'est impossible de donner une définition d'être premier. Alors c'est vrai. Est-ce que ce n'est point paradoxal? Je comprends. Nous allons le voir là, maintenant. Et moi, j'espère bien. C'est vrai qu'il y a un certain paradoxe selon notre façon de penser, entre un être source, entre le fait qu'un être puisse être source d'autres êtres, et qu'en même temps, ces autres êtres ne lui ajoutent rien. C'est vrai, nous devons affirmer les deux. Oui. Nous devons tenir, oui, c'est comme un paradoxe. Ces réalités sont autres que lui, et en même temps, elles ne lui ajoutent rien. Alors, quand on dit « rien ne lui est extérieur », quand je dis « rien ne lui est extérieur », au sens où tout ce qui existe, il le porte en lui. Toute perfection des réalités existe d'abord en lui. Tout existe en lui. Les réalités ne sont pas lui, mais elles existent en lui. Et il est présent à tout. Vous voyez, toute perfection existe en lui. Et en plus, il est présent à tout, comme étant la cause. C'est vrai, il y a une sorte de paradoxe. Alors, quand on parle d'une distance, ça veut dire autre le créateur, autre la créature. Cette distance, c'est cela que ça veut dire. C'est en plus des réalités subsistantes que Dieu crée, c'est-à-dire des réalités qui ont leur autonomie dans l'être, qui ont une certaine autonomie et qui en même temps sont totalement dépendantes. Il y a ça aussi. Ce sont des réalités subsistantes que Dieu crée. Nous en avons l'expérience. Ce sont des personnes. Dieu crée des personnes, des êtres personnels, nous-mêmes. Et en même temps, nous sommes radicalement dépendants. C'est vrai qu'on pourrait opposer, dire, est-ce que je suis dépendant ou est-ce que je suis autonome? Il y a une réelle autonomie, il y a une réelle dépendance. Et c'est cette dépendance, et justement, cette autonomie n'existe que dans la dépendance à l'être premier. On touche, à travers tous ces points-là, cette causalité particulière, unique de l'être premier. Nous nous sommes quittés tout à l'heure, avant les carrefours, au moment de ce passage entre la découverte de la nécessité de l'existence de l'être premier et de ses manières d'exister et l'affirmation de la dépendance de tout ce qui existe à l'égard de cet être premier. En distinguant les deux moments. Donc nous découvrons son existence grâce au principe de causalité finale. Et après on se demande, mais quelle est cette dépendance à l'égard de toutes les autres réalités à son égard? Je pense qu'il serait, juste en deux mots, ça a été fait je crois dans les carrefours, je me permets quand même juste de revenir sur une question de la causalité. Tout à l'heure j'ai dit, la première fois que j'ai utilisé le mot, c'est difficile de saisir ce que c'est que la cause. Alors, surtout que j'ai employé le terme de principe et de cause propre, puis après de cause première, qu'on a parlé de l'être en acte, de l'acte pur. Alors, bon. C'est vrai, il faut toujours revenir à l'expérience. Le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience. Est-ce que j'ai une expérience de la causalité? Non. J'ai une expérience de réalité qui sont causes. À partir de cela, je vais avoir une connaissance de ce que c'est que la causalité. Et l'expérience que je vais avoir, elle est très diverse. C'est pas la même façon dont une réalité va être cause, par exemple dans le travail, et puis dans l'aspect de l'amour. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, vous voyez, du point de vue même de la fin. C'est pas la même chose d'avoir une inspiration, qui est une inspiration. C'est pas la même chose d'avoir une intention de vie. C'est pas la même, hein? Si je regarde au niveau de mon expérience, quand je réalise un travail, il y a une inspiration qui fait que c'est cette œuvre-là, hein? Il y a une intention, l'intention non, intentionnellement, en moi, je porte l'œuvre, hein? que je peux réaliser. Et puis, du point de vue de l'œuvre, elle est une fin. Quand je travaille, c'est en vue d'une œuvre. C'est en vue d'une œuvre que je travaille. L'œuvre est fin de mon travail. Quand j'aime, qu'est-ce qui est fin? Qu'est-ce qui est la fin? C'est le bien. C'est totalement différent. Des deux côtés, il y a quelque chose qui finalise. En vue de quoi j'agis? L'œuvre en vue de quoi je travaille. Et de l'autre côté, mon ami, en vue de quoi je vais faire ceci. Alors, je vous ai dit, hein, les causalités sont liées aussi aux questions, aux interrogations. On distingue la causalité efficiente, d'où. Si je prends une expérience, alors là, peut-être l'expérience la plus commune, disons la première expérience que nous faisons, celle du travail. Alors disons ça. Je fais une statue. D'où la statue? Cause efficiente. Moi-même, l'artiste. Et attention, je ne dis pas la main, hein, c'est la personne. Il y a l'intelligence et la main. Hein, d'où? En quoi? Quelle matière? J'ai fait une statue, ça veut dire il y avait quelque chose au point de départ, un bloc de pierre, et puis il va être transformé, recevoir des contours, hein, et ça va devenir telle statue. D'où? L'artiste, moi-même. Ah, intervient l'instrument, cause instrumentale, le burin. Parce que c'est le burin qui a fait la statue. Oui, c'est vrai. Mais le burin, il n'a fait que ce qu'il peut faire, ça veut dire tailler. Hein? Le fait que ça devienne, attention, il ne suffit pas à rendre compte, hein, d'où. Il est instrument. Il agit, hein, comme instrument lié à la main. Donc, cause efficiente instrumentale. Cause efficiente principale, l'artiste. La forme, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est une statue, oui, non. Qu'est-ce que c'est? C'est cette statue. Et avec la forme, la figura. Alors, c'est la statue, je ne sais pas, de. Statue de. Ce que vous voulez, quoi. La victoire de Samothrace. Voilà. Ça, là, c'est un nom que j'ai donné, hein. C'est pas. Qu'est-ce que c'est? La forme qui est dedans. Le lien, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Il y a une matière et il y a une forme. Et il peut y avoir, oui, il y a la cause formelle, ce que c'est. Mais ce que c'est, sur le modèle de quoi est-ce que c'est? Il y a la cause formelle, hein? Ce que c'est, la réalité en elle-même, et sur le modèle de quoi? Cause formelle extrinsèque. Ça, c'est l'idée que je portais en moi-même. Quand j'ai conçu de cette statue, je l'ai vue comme ça, à l'intérieur de moi-même. Puis après, la forme que j'ai mise dans la matière, elle vient, hein, elle est, vous voyez, elle est sur le modèle. Elle est sur le modèle de celle que je portais en moi. Cause finale, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre en elle-même. Cause finale du fait que je travaille. Ça peut être aussi, ben, oui, pour me faire de l'argent. En fait, quoi? Gagner ma croûte. La cause, les causes, son angle s'agit de façon analogique, selon les différentes expériences que nous avons. Quand on parlera par exemple du corps, hein, au niveau de la philosophie du vivant, si je regarde le vivant, hein, ce qui vit, et parler du corps, en quoi, hein, tous les vivants que j'expérimente, en quoi il y a le corps. Mais le corps, hein, c'est un corps organique, hein. C'est vrai, c'est l'aspect de la causalité matérielle. Hein. Mais c'est déjà assez élaboré, un corps. Hein. Alors, j'ai parlé aussi de principes et de causes propres à la substance et l'être en acte. Je crois que c'est important de voir, attention, les principes et les causes propres ne sont pas des réalités existantes. Vous voyez, ce n'est pas une réalité qui existe, hein, comme s'il fallait débusquer dans l'univers l'être en acte, hein, ou la substance. Non. C'est quelque chose que je saisis à l'intérieur de la réalité existante et qui n'existe que dans la réalité. C'est un principe réel. Par rapport à la substance et l'acte, c'est vrai que toute réalité, en tant qu'elle existe, implique substance et acte. Elle implique détermination et fin. C'est réel. C'est réel que pour rendre compte de ce qui est en tant qu'il est, je dois dire qu'il implique détermination et un principe, selon la forme qui est la substance, et il implique fin. Et un principe, selon la fin, principe propre, qui est l'être en acte. Ça, c'est lié à le conditionnement de mon intelligence. Hein. Je n'ai pas une saisie intuitive d'une réalité. Quand je vois, quand je connais une réalité, hein, bien sûr, par la vision, il y a quelque chose d'immédiat. Hein. Tout à l'heure, je parlais du jugement d'existence. Mais tiens, mais déjà, dans le jugement d'existence, il y a une composition. Il y a ceci et il y a être. Mon intelligence connaît, hein, toujours à travers ce mode de composition, de division. C'est la nécessité de l'analyse. Dieu ne connaît pas ainsi, hein, ça c'est vrai. Mais nous, nous connaissons ainsi. Nous devons analyser. Et donc, découvrant diversité, unité, nous cherchons le principe. Ce qui est premier. Alors, je ne sais pas si c'est sûrement difficile à saisir, hein, surtout quand on n'est pas familier. Je suis d'accord qu'il y a un certain jargon. Et la distinction entre un principe réel, alors c'est un principe réel, mais en même temps, ce n'est pas une réalité existante. C'est un principe réel, mais il n'existe que dans la réalité existante. Il est saisi dans la réalité existante. Il n'est pas une autre réalité existante. Il n'est pas, hein, quand je regarde une personne humaine, cette personne implique substance et acte, et être en acte. Et cette personne, elle existe, ça c'est une réalité existante. Voilà. Je suis une réalité existante. Vous êtes une réalité existante. Et chacun de nous implique principe propre, selon la forme et selon la fin de ce qui est substance et acte. Par contre, l'être premier, lui, ah, on ne le dit pas principe propre, cause propre, on le dit cause première. C'est ce que nous sommes en train de préciser. Hein. Il est cause première. Il n'est pas saisi dans l'analyse de ce qui est. Ce serait terrible de dire ça. Hein. Tout ce qui est, en tant qu'il est, implique, hein, dans un regard d'analyse, hein, l'être premier. Ça voudrait dire que je ne pourrais connaître la réalité que dans le regard de Dieu. Ça serait, hein, oui, c'est ça. Ce ce qu'on a appelé l'ontologisme. La réalité n'est intelligible que en référence à Dieu. Non, la réalité, il y a des principes propres de la réalité. Mais face à cette réalité existante, dans laquelle je découvre les principes propres, je suis conduit à poser l'existence d'un autre être, de l'être premier, qui est donc, lui, une réalité existante, et dont, dans un deuxième temps, je vais montrer qu'il est cause première de toute autre réalité existante. L'être en acte, principe propre, l'acte pur, cause première, une réalité existante. Un être personnel, bon. Un principe propre, ce n'est pas une personne, non. L'acte pur, oui, c'est une personne. Un être personnel, bon, parfait, simple. La cause, principe, c'est ce qui est premier dans un ordre donné. La cause, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'être ou de l'ordre du devenir. Voilà. C'est ça la cause, on pourrait dire. Premier dans l'ordre de l'être ou du devenir. Alors, je vous ai dit qu'il était important de faire le passage, et je crois que c'est vraiment nécessaire de vraiment insister là-dessus, entre la dépendance de toutes les réalités existantes selon la cause finale à l'égard de l'être premier. Ce qui nous a conduit à poser son existence, la nécessité de son existence. Première chose. Et deuxième dépendance, la dépendance selon la cause efficiente. Dépendance selon la cause finale, en vue de. En vue de quoi ? Et la dépendance selon la cause efficiente, d'où ? D'où la réalité ? Parce que celui qui est cause finale, donc celui en vue de quoi existe, est aussi premier. Il est aussi premier. Tout dépend de lui. Il est à la fois, voyez, sa causalité, elle est à la fois ultime, en vue de quoi, et elle est en même temps première, radicale. Les deux sont unis. Dans la causalité de l'être premier à l'égard de tout ce qui existe en dehors de lui. Causalité ultime, c'est ça qui est que l'on saisit avant tout. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en lumière. Nous sommes déformés, nous voyons tout de suite l'aspect de la causalité efficiente, d'où ça vient. C'est important de remettre en lumière la causalité finale. En vue de quoi ? C'est la cause des causes que la cause finale. Et découvrir que cette dépendance selon la cause finale, elle implique une dépendance selon la cause efficiente. Parce que cette cause finale, elle est première. Du point de vue de l'être, de l'acte d'être. cette causalité que je vais préciser. Donc. Et cet être nécessaire, enfin, il est aussi cause première, cause efficiente. D'une causalité, alors on va essayer de préciser ce que le philosophe peut dire, d'une causalité qui touche l'acte d'être de la réalité. Vous voyez, toutes les autres causalités efficientes dont j'ai l'expérience ne touchent pas l'être, elles touchent la forme, le devenir. Quand un artiste agit, l'exemple que je prenais tout à l'heure, la statue, la causalité de l'artiste ne regarde pas l'être, il y a un sujet qui préexiste à son action. Regarde la forme. Quelle forme va être donnée à cette matière ? Cette pierre qui était dans un état brut, voilà qu'elle va avoir une forme, une figure. La causalité de l'être premier, elle regarde l'acte d'être, l'exister, le fait d'être de la réalité. C'est la première chose qu'on doit montrer, c'est ce qui lui est propre. Il n'y a que l'être premier qui peut ainsi. Ainsi, chaque réalité, moi-même, est atteinte dans ce qu'elle a de plus elle-même. Mon acte d'être, mon exister, c'est ce que je suis le plus moi-même, ce qu'il y a de plus moi-même. Mon être. Quelqu'un peut agir sur l'extérieur de moi-même. Quelqu'un peut même agir sur... Un homme peut agir sur... Oui, sur mon imagination, peut agir sur mon intelligence. C'est vrai. Mais Dieu seul peut agir sur mon acte d'être, lui-même. Ce qu'il y a de plus, moi-même. Et en même temps, cette causalité de l'être premier, comme elle regarde l'acte d'être, elle regarde ce qu'il y a de plus commun. Toutes les réalités ont en commun cela, le fait d'être. Donc cette causalité, vous voyez, elle touche à la fois ce qu'il y a de plus intime à chacun et ce qui est commun à tous. Elle est première à la fois dans l'ordre de la compréhension, elle touche ce qu'il y a de plus intime, et dans l'ordre de l'extension. Rien ne lui échappe. Vous voyez, rien ne lui échappe du point de vue de l'extension et du point de vue de la compréhension, puisqu'elle touche ce qu'il y a de plus intime, et par là, tout. C'est dans ce qui est radical en moi que je suis dépendant de l'être premier, dans mon acte d'être. Cette causalité première, est-ce qu'elle peut coopérer avec une autre causalité? Si je reprends l'exemple de l'artisan, l'artiste, il coopère avec deux autres causalités, l'instrument et la matière. Est-ce que la causalité de l'être premier peut coopérer avec une matière? Non, il n'y a pas de causalité matérielle. C'est une causalité absolument première, parce qu'elle agit sur l'être. S'il y avait quelque chose, vous voyez, quand je veux dire la matière, l'artiste va travailler sur quelque chose qui existe avant lui, une matière. Il va lui donner une forme, il va transformer. Qu'est-ce qui existe avant l'être? Rien. Cette causalité première qui regarde l'acte d'être, eh bien, elle ne peut pas s'exercer sur quelque chose, un sujet. C'est en ce sens-là qu'on va parler de la création ex nihilo, à partir de rien. Faire à partir de rien. Pour exprimer par un mode négatif, en quoi cette causalité elle est absolument première. C'est ça qu'on veut dire, ex nihilo. Manifester que, touchant l'être, elle est absolument première et ne coopère avec une ou aucune autre. Et y a-t-il un instrument? Peut-il y avoir un instrument de la création? Non, ce n'est pas possible. Parce que l'instrument, il va disposer à l'effet de la cause principale. Le burin, en taillant, va disposer la pierre. Hein. Voilà ce qui est l'effet du burin, c'est quoi? De détacher du bloc un morceau de pierre. Voilà son effet. Et en détachant, il va disposer cette pierre à recevoir la forme que l'artiste veut lui donner. Ça, c'est l'effet de la cause principale. Hein. Vous voyez dans l'analyse, il faut distinguer hein, quel est l'effet du burin et quel est l'effet de l'artiste qui tient ce burin. L'effet du burin en lui-même ou l'effet de la scie, c'est pas de faire une table. La scie ne fait pas la table. Hein. Sens. Vous voyez, si je veux être très, très précis, la scie, elle sépare deux morceaux de bois. Le burin, il ne fait pas la statue. Hein, il ne fait la statue au sens, il ne donne pas la forme. Oui, il dispose. Il ne peut pas y avoir de disposition à la création. C'est une causalité absolument première. Il faudrait qu'il y ait quelque chose d'antérieur hein, à la communication de l'être. Il ne peut rien avoir d'antérieur à la communication de l'être. Il ne peut pas y avoir d'instrument. Causalité directe. Pas d'instrument, hein. C'est direct. L'être premier ne peut se communiquer qu'à la manière d'un pur don, sans aucune coopération extérieure. Étant premier, puisqu'il est premier. Quand il se donne, quand il se communique plutôt, il se donne lui-même. C'est lui-même hein, qu'il donne. Et en même temps, il est le seul à pouvoir donner lui-même aux autres réalités. Cette causalité efficiente, hein, celui qui est la source de tout ce qui existe, c'est la causalité d'un être absolument parfait. D'un être bon et dans la simplicité de son être. Il ne peut donc agir que selon le mode d'une cause finale. Causalité efficiente et causalité finale, je dis qu'elle se tenait là. Ça veut dire que cet être, quand il se communique lui-même, en se communiquant, il attire à lui ce à quoi il se communique. Ou ce à qui, hein, quand il s'agit de personne, ce à qui il se communique. Il n'agit pas pour se perfectionner, uniquement pour se communiquer. Et en se communiquant, il attire. Vous voyez, dans notre expérience, la causalité efficiente, elle est toujours ordonnée à une causalité finale. Il y a une causalité efficiente et il y a une causalité finale. La causalité de l'être premier, elle unit les deux. Parce que c'est la causalité absolument première. Et d'un être qui est la causalité d'un être parfait, bon, souverainement bon, qui se suffit à lui-même. Il faut le redire, première et ultime, radicale et ultime. C'est la causalité d'un être dont la bonté est son être. Alors, oui, tout à l'heure j'ai montré qu'il fallait distinguer hein, dans l'ordre de l'analyse et dans l'ordre de notre progression comment On découvre l'être premier, d'abord, selon la cause finale. Puis après, on se pose la question par rapport à la cause efficiente. Puis voilà qu'au terme, on voit qu'elles sont liées les deux. Cette causalité efficiente, elle agit selon le mode de la cause finale. Puis on peut lire l'inverse aussi. Cette causalité finale implique la causalité efficiente. Il fallait les distinguer, puis on retrouve qu'elles sont unies. Et c'est capital de les distinguer, parce que si on ne les distingue pas, eh bien, on risque de faire de grosses erreurs. Et de dire que l'on découvre l'existence de l'être premier comme l'existence de la source de mon être. Non, nous l'avons découvert selon la cause finale. Nous ne l'avons pas découvert comme celui qui est source de mon être. Sinon, bah oui, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'aurait d'intelligibilité que par lui. Si je continue à préciser comment elle s'exerce, cette causalité, vous voyez, dans le devenir, dans un mouvement, spécialement dans un mouvement dans l'ordre artistique du travail, on va distinguer le sujet, celui qui est modifié, on va distinguer ce qui modifie, celui qui modifie, et puis, les deux états extrêmes, le sujet avant le mouvement et le sujet après, les deux termes. Et parce que le mouvement, on ne peut pas, oui, mouvement en lui-même, on ne peut pas le saisir. On va le regarder de deux façons. Si on va le regarder, on va le regarder du point de vue de celui qui est modifié. On va dire qu'il y a une passion, il pâtit. Il reçoit une forme. Si on regarde le mouvement du côté de celui qui modifie, on va dire qu'il y a une action. Passion et action. C'est deux regards sur un même mouvement. Passage d'une réalité, d'un état à un autre, selon, sous l'effet d'une cause. Ben, il y a passion et action. Passion du point de vue de ce qui est modifié, action du point de vue de ce qui modifie. C'est un même mouvement si je vous donne un coup de poing. C'est un mouvement 1. Mais d'un côté, on peut regarder l'action, et puis de l'autre côté, la passion. C'est pas la même chose. On voit bien. Pâtir, réagir. Voilà. Et pourtant, il y a une unité. C'est un seul mouvement, mais je regarde des deux côtés. Dans ce qui se fait, dans cette causalité de l'être premier. On ne peut pas parler au sens strict de devenir. Il n'y a pas un sujet qui est là au point de départ. Il n'y a pas un sujet qui préexiste. Donc on l'a dit, il n'y a pas de cause matérielle. Il n'y a pas de sujet qui préexiste. Mais on peut parler du point de vue de Dieu, celui qui fait. On peut dire qu'il y a une action pure, c'est-à-dire une action qui s'identifie à l'être de Dieu. Si je veux essayer de saisir, une action qui s'identifie à l'être de Dieu, la simplicité. Et du point de vue de ce qui est créé, on peut parler d'une pure passion, au sens que dans tout son être, il est dépendant. La pierre n'est pas dépendante, n'est pas, vous voyez, dans un état de pure passion. C'est juste du point de vue de la forme, qu'elle pâtit, qu'elle reçoit quelque chose de l'artiste. Tandis que la réalité, qui dépend de l'être premier, hein, à qui l'être premier communique l'être, ils dépendent en tout dans un état de pure passion. Cette causalité, elle est la causalité de l'être souverainement bon, parfait, qui est le vivant, et dont la vie est contemplation et amour. Cette causalité, elle s'exerce donc dans la contemplation et dans l'amour. Cette causalité, oui, elle vient, elle provient de cette contemplation et de cet amour. Mais attention, contemplation et amour, c'est la vie même de l'être premier, qui est lui-même, qui est contemplation de la contemplation et amour de l'amour, qui se suffit à lui-même, qui vit un bonheur parfait. Il n'y a aucune nécessité à la création. Cet être, il est nécessaire dans son... dans sa contemplation et dans son amour, oui, il est nécessaire pour lui de se contempler et de s'aimer. Et il se suffit à lui-même. Il n'est pas nécessaire pour lui de produire d'autres êtres. Et donc, on peut dire, hein, que c'est selon sa volonté libre, parce qu'elle porte, ça porte sur des réalités limitées, hein, qui sont moins que lui, qui ne lui ajoutent rien. C'est selon sa volonté libre qu'il donne l'être à d'autres réalités. Et le philosophe peut dire ça. Une volonté qui implique un amour qui est relatif à l'amour qu'il se porte à lui-même. Un amour qui implique donc un choix totalement libre. Et un amour qui, par le fait même qu'il n'y a pas de nécessité, est totalement gratuit. Il y a les deux qualités, vous voyez, de cette causalité. Elle est libre et gratuite. Liberté et gratuité. Vous voyez, Dieu seul peut ainsi exercer, plutôt, Dieu seul peut avoir cette gratuité absolue. Nous, jamais nous ne pouvons l'avoir. Bien sûr, on peut tendre, au niveau moral, à une gratuité. Qu'est-ce que c'est que la gratuité, hein? C'est de donner pour donner. De ne pas donner pour recevoir en retour. Mais même quand dans l'ordre moral, surtout quand nous faisons ce qu'on appelle un acte gratuit, ça veut dire quand, attiré par le bien, attiré par mon ami, je lui veux du bien pour lui, je l'aime pour lui. Eh bien, c'est surtout à ce moment-là, d'ailleurs, que cet acte, hein, que je fais, finalisé par lui, va me perfectionner. C'est cet acte-là, d'ailleurs, qui me perfectionnera le plus. En ce sens-là, on ne peut pas parler d'une gratuité absolue. Tandis que l'être premier, souverain bien, bonté substantielle, qui est à lui-même sa propre fin, Contemplation, hein, de la contemplation. Une contemplation qui atteint l'être. Sa contemplation, elle atteint l'être. C'est vrai que cette causalité, elle jaillit de sa contemplation qui atteint l'être. Et elle jaillit de celui qui est aussi le souverain bien. Et donc, une cause finale qui peut être cause première. Parce qu'il est, oui, il est le souverain bien. Il est à lui-même sa propre fin. Il est ultime. Cette causalité qui s'exerce donc dans la contemplation et dans l'amour, elle a toute la limpidité, toute l'efficacité de sa source. Nous avons vu tout à l'heure qu'elle s'exerce sans aucune coopération, ni avec une causalité matérielle, ni avec une causalité instrumentale. C'est cette qualité de limpidité. Dans la lumière de la contemplation de l'être premier. Et d'une efficacité, vous voyez, au sens de l'amour qui se donne. C'est plus que l'efficacité, on pourrait dire. Voilà ce qu'on appelle la création. Voilà ce que les traditions religieuses appellent la création. Cette causalité première, ultime et première. Cette causalité directe. Qui n'implique ni matière, ni instrument. Cette causalité qui s'exerce dans la contemplation et dans l'amour. Cette causalité gratuite, libre, limpide. Cette causalité, voilà ce qu'on appelle la création. Je vais juste, en quelques mots, parce que demain il faudra aborder la question de théologie chrétienne, ce sera temps. En quelques mots, évoquer, tout ce qu'évoquer, il faudrait, oui, on va l'évoquer ce soir, la conséquence immédiate de cette causalité créatrice qui est la présence d'immensité. Présence d'immensité. On est présent à une réalité dans la mesure où on agit sur elle. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit. L'être premier est présent à la réalité en tout ce qu'elle est. Car sa causalité s'exerce sur l'être. C'est le contact le plus intime qui soit. Total. Compréhensif aussi. Dans notre expérience, souvent la cause agit sur le devenir. Si la cause disparaît, l'effet demeure. Quand l'artiste meurt, la statue demeure. Parce que l'artiste a agi sur le devenir, pas sur l'être. La causalité de l'être premier, elle s'exerce sur l'être. Et donc, cette présence, elle demeure toujours. Vous voyez, il y a un contact, le contact est lié. Il y a un contact de la cause avec son effet propre. Et s'il y a une causalité qui s'exerce sur l'être, il y a un contact.